Évangile selon Luc, chapitre 20. Réponse de Jésus au chef du peuple, versets 1 à 8.
Lecture de la parole. Et il arriva, l'un de ces jours, comme il enseignait le peuple dans le temple et évangélisait, que les principaux sacrificateurs et les scribes survinrent avec les anciens. Et ils lui parlèrent, disant, « Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Et répondant, il leur dit, « Je vous demanderai moi aussi une chose, et dites-moi, le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ?» Et ils raisonnèrent entre eux, disant, « Si nous disons du ciel, il dira, pourquoi ne l'avez-vous pas cru ? Et si nous disons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Et ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il était. Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. »
Lecture de l'étude. Les chefs religieux survinrent dans le temple lorsque Jésus enseignait et évangélisait, et lui demandèrent en vertu de quelle autorité il agissait et qui la lui avait donnée. Indignés sans doute de la manière dont il avait purifié le temple, ils éprouvaient, plus qu'ils ne l'avouaient, qu'il agissait et parlait avec une puissance à laquelle ils ne pouvaient s'opposer. Ce qui était le plus insupportable à ces hommes religieux, c'était de sentir leur influence affaiblie en présence de celle qui résultait des actes et des paroles de Jésus. Voir Marc 1, verset 22.
Et ils s'étonnaient de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes.
Le peuple reconnaissait l'autorité de ses paroles, cela empêchait les chefs de le faire mourir. Chapitre 19, verset 48.
Et ils ne trouvaient rien qu'ils pussent faire, car tout le peuple se tenait suspendu à ses lèvres pour l'entendre.
Tandis que leur haine et leur jalousie pour Jésus ne faisaient qu'augmenter. Ils prétendaient tenir leur autorité religieuse de Dieu, mais leur conscience témoignait que celle de Jésus était divine. Ils se sentaient donc mal à leur aise, car il y avait désaccord absolu entre leur activité, leur pensée et celle de Jésus, chose impossible si elles avaient découlé de la même source. Ce qui est de Dieu s'oppose toujours à ce qui est de l'homme, et jamais plus qu'en matière religieuse. Ces hommes auraient aimé que Jésus leur dît ouvertement d'où venait son autorité, afin de pouvoir discuter et le trouver en défaut. S'ils n'en admettaient pas l'origine divine, ils pensaient encore moins qu'ils se trouvaient en présence de celui qui prend les sages dans leur ruse. Job 5, verset 13. Jésus leur dit, « Je vous demanderai, moi aussi, une chose. Et dites-moi, le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ?» Versets 3 et 4. Ils raisonnèrent entre eux, « Lorsqu'on ne veut pas croire, on raisonne toujours. » Disant, si nous disons du ciel, il dira, pourquoi ne l'avez-vous pas cru? Et si nous disons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Versets 5 à 6. Ce raisonnement met en évidence leur volonté arrêtée de ne pas croire, et par conséquent leur culpabilité, résultat auquel ils ne s'attendaient pas quand ils interrogeaient Jésus. Jean était un prophète envoyé de Dieu. Jean 1, verset 6.
Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean.
Luc 7, verset 26-28.
Et qu'êtes-vous allé voir, un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est ici celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. Car je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean le baptiseur, mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. »
Le plus grand des prophètes, car non seulement il avait annoncé le Messie, mais il avait eu le grand privilège de le voir. Il était son précurseur immédiat. Si jamais on aurait dû croire et recevoir un prophète, c'était bien celui-là, car les Juifs avaient devant eux celui qui faisait l'objet de sa prophétie. On ne le crut pas, et il mourut victime de la haine d'une femme. S'il répondait que le baptême de Jean était du ciel, il se condamnait. S'il disait qu'ils étaient des hommes, ils redoutaient la foule. S'ils avaient craint Dieu plutôt que le peuple, ils auraient agi tout autrement. Combien il est vrai que la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, Proverbe 1, verset 7. Ils préfèrent passer pour ignorants et ne pas recevoir la réponse à leurs questions plutôt que de reconnaître leur double culpabilité, puisqu'ils ne croyaient ni Jean ni le Seigneur. Ils répondent qu'ils ne savent pas, et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses. » Verset 8. Combien est grande la responsabilité de ceux qui, en tout temps, ont pris la place de conducteurs spirituels lorsqu'ils ne conduisent pas les âmes à Jésus. Car s'ils ne le font pas, ils les attachent à eux-mêmes, ou bien ils les laissent errer dans le monde. Les foules qui considéraient Jean comme un prophète et se tenaient suspendues aux lèvres de Jésus pour l'entendre, se laissèrent finalement entraîner par les chefs religieux à demander à Pilate de relâcher Barabbas et de crucifier Jésus. Matthieu 27, verset 20.
Mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent aux foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus.
Sans la foi à la parole de Dieu, les impressions les plus profondes ne changent rien à l'état de l'âme. Parabole des cultivateurs de la vigne, versets 9 à 19.
Lecture de la parole. Et il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne et la loua des cultivateurs et s'en alla hors du pays pour longtemps. Et en la saison, il envoya un esclave au cultivateur afin qu'il lui donnasse du fruit de la vigne. Mais les cultivateurs, l'ayant battu, le renvoyèrent à vide. Et il envoya encore un autre esclave, mais l'ayant battu lui aussi, et l'ayant traité ignominieusement, ils le renvoyèrent à vide. Et il en envoya encore un troisième, mais ils blessèrent aussi celui-ci, et le jetèrent dehors. Et le maître de la vigne dit, « Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être que, quand ils verront celui-ci, ils le respecteront. » Et quand les cultivateurs le virent, ils raisonnèrent entre eux, disant, « Celui-ci est l'héritier. » Tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et l'ayant jeté hors de la vigne, ils le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr ses cultivateurs, et donnera la vigne à d'autres. Et l'ayant entendu, ils dirent, qu'ainsi n'advienne. Et lui, les regardant, dit, qu'est-ce donc que ceci qui est écrit, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé, mais celui sur qui elle tombera, elle le broiera. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent en cette heure même à mettre les mains sur lui, et ils craignaient le peuple, car ils connurent qu'il avait dit cette parabole contre eux.
Lecture de l'étude. Dans cette parabole, Jésus présente la manière dont Dieu a agi envers son peuple dès son origine et les résultats obtenus. Il fait ressortir la culpabilité des cultivateurs de la vigne, ces hommes responsables au milieu du peuple. Israël est souvent représenté par une vigne, psaume 80, Ésaïe 5. On attend du fruit d'une vigne bien cultivée. C'est ce que Dieu cherchait en l'homme. Il avait placé Israël dans des conditions exceptionnellement favorables, dans un pays découlant de lait et de miel. Il l'avait entouré de sa puissante protection et placé en relation avec lui, afin de voir si, grâce aux soins qu'il lui prodiguait, il obtiendrait du fruit, savoir une marche qui répondit à ses pensées exprimées par la loi. Il s'attendait à ce qu'elle produirait de bons raisins, et elle produisit des raisins sauvages, dit l'Éternel, en Ésaïe 5, versets 2 et 3. Cette parabole met en évidence la responsabilité et la culpabilité des chefs religieux, plutôt que l'incapacité de la nature humaine à produire du fruit pour Dieu. Un homme planta une vigne et la loua à des cultivateurs et s'en alla hors du pays pour longtemps. Quand vint le temps de la vendange, le maître de la vigne envoya un esclave pour chercher du fruit, mais les cultivateurs le battirent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya un second qu'ils traitèrent tout aussi mal, puis un troisième qu'ils blessèrent et jetèrent hors de la vigne. Le traitement infligé aux esclaves nous montre comment furent reçus les prophètes que l'Éternel envoyait à son peuple pour l'engager à le servir. Jérusalem est appelée la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés, Luc 13, verset 34. Malgré la triste expérience faite avec ses esclaves, le maître de la vigne dit « J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être que, quand ils verront celui-ci, ils le respecteront. » Verset 13. Dieu, dans sa patience et sa bonté, a voulu épuiser tous les moyens avant d'user de rigueur envers son peuple. Il envoya encore son fils, mais cela ne fit que manifester l'inimitié du cœur de l'homme envers Dieu, sa révolte et son indépendance. Mais quand les cultivateurs le virent, ils raisonnèrent entre eux, disant « Celui-ci est l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et l'ayant jeté hors de la vigne, ils le tuèrent, versets 14 et 15. Autrefois, un pharaon, un païen, put dire « Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix ? Je ne connais pas l'Éternel. » Exode 5, verset 2. Mais ici, c'est ce peuple délivré de la main du pharaon, le peuple que l'Éternel s'était choisi d'entre tous les peuples de la terre, auquel il s'était révélé d'une manière si merveilleuse, qui refuse de rendre ce qui est dû à son Dieu et met à mort son fils. Voir Amos 3, versets 1 et 2.
Écoutez cette parole que l'Éternel prononce sur vous, fils d'Israël, sur la famille entière que j'ai fait monter du pays d'Égypte, disant « Je vous ai connu, vous seuls, de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. »
Par l'exemple d'Israël, Dieu a mis en évidence ce qu'est le cœur de tout homme. Non seulement il ne veut pas rendre à Dieu ce qui lui revient, mais il veut posséder l'héritage. Il exclut Dieu de tout pour être maître absolu sur cette terre. De nos jours, où l'on parle tant des droits de l'homme, on frustre Dieu des siens, au point que, prochainement, c'est à l'homme de péché que l'on rendra ce qui appartient à Dieu seul. Or Daniel 11, versets 36-39.
Et le roi agira selon son bon plaisir, et s'exaltera, et s'élèvera contre tout Dieu, et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux, et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait, et il n'aura point égard au Dieu de ses pères, et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes, ni à aucun Dieu, car il s'agrandira au-dessus de tout, et, à sa place, il honorera le Dieu des forteresses, avec de l'or, et avec de l'argent, et avec des pierres précieuses, et avec des choses désirables, il honorera un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Et il agira dans les lieux forts des forteresses, avec un Dieu étranger. À qui il le reconnaîtra, il multipliera la gloire, et il les fera dominer sur la multitude, et leur partagera le pays en récompense.
2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4.
Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu.
Après qu'il eut envoyé son fils, la patience du maître de la vigne arriva à son terme. Les jugements de Dieu tombèrent sur les Juifs au moyen des Romains, et les bénédictions apportées par le Seigneur échurent à l'Église. Hélas, au point de vue de sa responsabilité, l'Église se montra aussi infidèle qu'Israël. Lorsque sera enlevée la véritable Église, celle que Christ bâtit lui-même, les jugements de Dieu tomberont sur celle qui n'aura eu qu'une profession sans vie, comme ils frappèrent jadis Israël. En réponse à la question de Jésus, que leur fera donc le maître de la vigne, le Seigneur dit lui-même, « Il viendra et fera périr ses cultivateurs et donnera la vigne à d'autres » verset 16. Ceux qui entendirent cela dirent à Jésus, « Qu'ainsi n'advienne ?» Une telle chose, pensait-il, ne saurait arriver. Et lui, les regardant, dit, « Qu'est-ce donc que ceci qui est écrit, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin ?» Psaume 118, verset 22. « Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé, mais celui sur qui elle tombera, elle le broiera. » Verset 17-18. Jésus veut faire comprendre aux Juifs qu'il parlait véritablement d'eux, quoiqu'il parût se croire à l'impossibilité d'une telle manière d'agir. Les chefs du peuple bâtissaient un édifice dont la maîtresse pierre du coin était Christ, la pierre qui donne toute solidité à la construction. Mais dans leur incrédulité et leur haine, ils ne voulurent pas le reconnaître, quoique leur conscience leur dit qu'il était bien le Christ, le Fils de Dieu. Ils le rejetèrent, ce qui les fit tomber sur cette pierre, et amena leur chute. Ils furent brisés comme nation. Au lieu d'apporter la bénédiction, Jésus fut aux Juifs une occasion de chute. 1 Corinthiens 1, verset 23.
Mais nous prêchons Christ crucifié, aux Juifs occasion de chute, aux nations folies.
Plus tard, une fois les Juifs rentrés dans leur pays, le Seigneur viendra en gloire, tombera en jugement sur ceux qui auront persévéré dans leur incrédulité à son égard et les broiera. Mais la minorité parmi eux, appelée résidus, attendra le Seigneur qui viendra régner et jouira des bénédictions millénaires qu'il apportera. Au verset 19, nous voyons que les principaux sacrificateurs et les scribes comprirent que Jésus parlait d'eux. Aussi cherchaient-ils dès cette heure à le faire mourir, bien qu'ils craignissent la foule. C'est ainsi qu'ils couraient au devant de leur chute pour l'accomplissement de ce que Jésus venait d'annoncer par sa parabole. Tel est l'homme dans son aveuglement lorsqu'il ne veut pas croire ce que Dieu lui dit. Rendre les choses de César à César et celles de Dieu à Dieu. Versets 20 à 26.
Lecture de la parole. Et l'observant, ils envoyèrent des agents secrets qui feignaient d'être justes pour le surprendre en quelques paroles, de manière à le livrer au magistrat et au pouvoir du gouverneur. Et ils l'interrogèrent disant, « Maître, nous savons que tu dis et que tu enseignes justement, et que tu n'as point égard à l'apparence des personnes, mais que tu enseignes la voie de Dieu avec vérité. Nous est-il permis de payer le tribut à César ou non ? » Et s'apercevant de leur perfidie, il leur dit, « Pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi un denier. De qui a-t-il l'image et l'inscription ?» Et répondant, ils dirent, « De César. » Et il leur dit, « Rendez donc les choses de César à César, et les choses de Dieu à Dieu. » Et ils ne pouvaient le surprendre dans ses paroles devant le peuple. Et étonnés de sa réponse, ils se turent.
Lecture de l'étude. Les sacrificateurs et les scribes, implacables dans leur haine contre Jésus, veulent à tout prix le trouver en défaut. Ils lui envoient donc des agents secrets pour le surprendre dans ses paroles et le livrer aux magistrats romains. Ses agents, feignant d'être justes, s'adressèrent à Jésus et lui dirent, « Maître, nous savons que tu dis et que tu enseignes justement, et que tu n'as point égard à l'apparence des personnes, mais que tu enseignes la voie de Dieu avec vérité. Nous est-il permis de payer le tribut à César ou non ? Verset 21. À vue humaine, cette question ne manquait pas d'habileté. Mais à quoi servait la flatterie et la subtilité de l'homme pervers en présence de l'homme parfait ? Il avait su répondre à Satan lors de la tentation du désert et l'avait vaincu. Ne découvrirait-il pas la perfidie de ses adversaires, agents d'un ennemi vaincu ? Ces hommes pensaient que, si Jésus leur disait qu'il fallait payer le tribut à César, il contrediraient son caractère de Messie, venu pour délivrer le peuple de la domination romaine. S'il disait l'inverse, c'était exciter à la rébellion vis-à-vis de l'autorité de Rome. Il pourrait alors le livrer à César. Connaissant leur perfidie, Jésus leur dit « Pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi un denier. De qui a-t-il l'image et l'inscription ?» Et répondant, ils dirent « De César ». Et il leur dit « Rendez donc les choses de César à César et les choses de Dieu à Dieu. » C'est 23 à 25. Le peuple subissait la domination gentile à cause de sa désobéissance à Dieu. Il supportait difficilement ce joug. Jésus reconnaissait l'état de choses existant sous le gouvernement de Dieu et montra aux Juifs qu'ils devaient subir les conséquences de leur infidélité en rendant à César ce qui lui était dû. Cela ne les dispensait nullement de leurs devoirs envers Dieu, ce dont les Romains les laissaient parfaitement libres, car ils ne s'ingéraient pas dans ce qui concernait leur culte. Acte 18, versets 14 à 15.
Et comme Paul allait ouvrir la bouche, Gallion dit aux Juifs, « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante fourberie, ô Juifs, je vous supporterais à bon droit. Mais si ce sont des questions de parole et de nom et de votre loi, vous y mettrez ordre vous-même, car moi, je ne veux pas être juge de ces choses. »
Hélas, comme au temps d'Ésaïe, ils honoraient Dieu de leurs lèvres, avec un cœur fort éloigné de lui, Ésaïe 29, verset 13.
Et le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et qu'il m'honore de leurs lèvres, et que leur cœur est éloigné de moi, et que leur crainte de moi est un commandement d'homme enseigné.
Les adversaires de Jésus ne pouvaient le surprendre dans ses paroles devant le peuple, et étonnés de sa réponse, ils se turent, verset 26. Il est bon de remarquer que la sagesse avec laquelle Jésus a toujours confondu ses interlocuteurs provenait de ses perfections humaines. Toujours en communion comme homme avec son Dieu, il vivait de ses paroles sous sa dépendance continuelle. Il a réalisé ce que dit le psaume 119, où nous voyons la valeur de la parole de Dieu et la place que lui donne dans toute sa vie l'homme dépendant et obéissant. Il est vrai que Jésus était Dieu. Comme tel, il possédait la toute science et la toute puissance. Mais ce n'est pas par ses attributs divins qu'il a vaincu l'ennemi, ni discerné la ruse de ses adversaires, et qu'il leur a répondu selon la pensée de Dieu. C'est comme homme parfait. C'est de lui qu'il est dit au psaume 119 « Combien j'aime ta loi ». Tout le jour je la médite, tes commandements m'ont rendu plus sage que mes ennemis, car ils sont toujours avec moi, verset 97-98. Ta parole est bien affinée et ton serviteur l'aime, verset 140. Si l'on s'approprie cette parole, on peut confondre ses ennemis et toujours plaire à Dieu, comme ce fut le cas pour Jésus. Nous pouvons en faire autant si nous avons la parole de Dieu pour guide, et Jésus pour modèle en toutes choses, si nous vivons comme lui, non pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu pour la mettre en pratique. Puissions-nous tous, jeunes et vieux, rester attachés à cette parole divine, nous en nourrir tout particulièrement dans les jours actuels où le raisonnement des hommes s'élève souvent avec subtilité contre ce que Dieu a dit, afin de pouvoir résister à tous les artifices de l'ennemi et demeurer ferme comme un rocher contre lequel viennent se briser toutes les vagues de la ruse et de l'incrédulité. Les Sadducéens interrogent Jésus, versets 27 à 40.
Lecture de la parole. Et quelques-uns des Sadducéens qui nient qu'il y ait une résurrection s'approchèrent et l'interrogèrent, disant, « Maître, Moïse nous a écrit que, si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme, et qu'il meurt sans enfant, son frère prenne la femme et suscite de la postérité à son frère. Il y avait donc 7 frères, et le premier, ayant pris une femme, mourut sans enfant. » Et le second prit la femme, et celui-ci aussi mourut sans enfant. Et le troisième la prit, et de même aussi les 7. Ils ne laissèrent pas d'enfants, et moururent, et après eux tous, la femme aussi mourut. Dans la résurrection donc, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eue pour femme? Et Jésus leur dit, « Les fils de ce siècle se marient, et sont donnés en mariage. » Mais ceux qui seront estimés dignes d'avoir part à ce siècle-là et à la résurrection d'entre les morts ne se marient ni ne sont donnés en mariage, car aussi ils ne peuvent plus mourir, car ils sont semblables aux anges et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Or que les morts ressuscitent, Moïse même l'a montré au titre du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous vivent. Et quelques-uns des scribes répondant dirent, « Maître, tu as bien dit. » Et ils n'osèrent plus l'interroger sur rien.
Lecture de l'étude. Maintenant que le Seigneur a réduit au silence les sacrificateurs et les scribes, c'est le tour des Sadducéens, la classe des raisonneurs incrédules d'alors, qui niaient la résurrection. Ils formulent une question aussi subtile en apparence que celle concernant le tribut à payer. Mais par là, ils étalent au grand jour leur ignorance et leur incrédulité. C'est ce qui arrive chaque fois que les pensées ténébreuses de la raison humaine entrent en contact avec la lumière de la parole de Dieu. Ces raisonneurs citent à Jésus une ordonnance de Moïse en Deutéronome 25, versets 5 à 10.
« Quand des frères habiteront ensemble et que l'un d'entre eux mourra et qu'il n'aura pas de fils, la femme du mort n'ira pas s'allier dehors à un homme étranger. Son lévire viendra vers elle et la prendra pour femme et s'acquittera envers elle de son devoir de lévire. Et il arrivera que le premier-né qu'elle enfantera succédera au nom du frère mort, et son nom ne sera pas effacé d'Israël. Et s'il ne plaît pas à l'homme de prendre sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens et dira, « Mon lévire refuse de relever le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas s'acquitter envers moi de son lévirat. » Et les anciens de sa ville l'appelleront et lui parleront, et s'il tient ferme et dit « Il ne me plaît pas de la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui devant les yeux des anciens, et lui ôtera la sandale de son pied et lui crachera à la figure, et elle répondra et dira « C'est ainsi qu'il sera fait à l'homme qui ne bâtira pas la maison de son frère, et son nom sera appelé en Israël la maison du déchaussé. »
Lorsqu'un homme mourait sans enfant, son frère devait épouser sa veuve et lui créer une postérité. Il suppose le cas de 7 frères qui moururent tous sans enfant, la femme du premier ayant passé successivement chacun selon la loi de Moïse. Dans la résurrection, disent-ils, duquel sera-t-elle la femme? Jésus leur répondit, les fils de ce siècle se marient et sont donnés en mariage. Mais ceux qui seront estimés dignes d'avoir part à ce siècle-là et à la résurrection d'entre les morts ne se marient ni ne sont donnés en mariage, car aussi ils ne peuvent plus mourir, car ils sont semblables aux anges et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection, versets 33-36. L'état de choses de la première création, purement matérielle, ne se continue pas au ciel. Il faut une création nouvelle, spirituelle, éternelle. Au commencement, Dieu dit à l'homme, « Fructifiez et multipliez et remplissez la terre. » Genèse 1, verset 28. Dans le ciel, il n'en sera pas ainsi. La résurrection d'entre les morts amènera ceux qui sont estimés dignes d'y avoir part, corps et âme, dans un état spirituel semblable à celui des anges, définitif et glorieux. Comme ils ne mourront plus, il n'y aura pas besoin de remplacer une génération qui s'en va par une suivante, comme c'est le cas maintenant sur la terre. Là, rien ne se gâtera, rien ne finira sur la nouvelle terre, tout s'y maintiendra dans une éternelle fraîcheur. Nous lisons en Apocalypse 21, verset 4, « Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Heureux avenir où les relations naturelles seront remplacées avantageusement et glorieusement par les relations spirituelles, célestes et divines, où Jésus, en qui Dieu sera vu et connu dans toutes ses gloires, absorbera toutes les pensées et remplira les cœurs dans le repos de l'amour divin. » Jésus donne ensuite une preuve de la résurrection tirée des livres de Moïse, partie des Écritures que les Sadducéens admettaient. « Or, que les morts ressuscitent, dit-il, Moïse même l'a montré au titre du buisson, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous vivent. » Verset 37-38. Le fait que Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lorsqu'il se révèle à Moïse dans le buisson de feu au désert de Madian, alors que ses patriarches étaient morts pour les hommes depuis plusieurs siècles, est la preuve de la résurrection. Exode 3, versets 1 à 6.
Et Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson à épines. Et il regarda, et voici, le buisson était tout ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, « Je me détournerai, et je verrai cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume pas. » Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il dit, « Me voici. » Et il dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu.
Dieu ne s'appellerait pas leur Dieu s'ils avaient cessé d'exister. Il ne dit pas qu'il avait été leur Dieu, mais qu'il l'est, je suis, car Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Puisqu'il est leur Dieu, il les amènera, ainsi que tous ceux qui seront estimés dignes d'avoir part à ce siècle-là, le siècle éternel du bonheur glorieux, dans l'état de corps et âmes réunis, au moyen de la résurrection d'entre les morts dont Christ a été les prémices. 1 Corinthiens 15, verset 23.
Les prémices, Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue.
Dieu veut avoir dans la bénédiction éternelle non des âmes immortelles seulement, mais des hommes avec leur corps, toutefois dans une condition infiniment meilleure que dans la création présente. Verset 36. Dans cet évangile, Jésus ajoute « Car pour Dieu tous vivent », mot qui ne se trouve ni en Matthieu ni en Marc. Non seulement tous ceux qui sont morts croyants, mais tous ceux qui sont morts n'ont pas cessé d'exister quant à leur âme. Ils vivent pour Dieu, aux yeux duquel rien n'est caché, malgré l'état de séparation momentanée de l'âme et du corps pour les sauver comme pour les perdus. À la création, Dieu forma l'homme d'un corps tiré de la terre et d'une âme constituée par le souffle de l'Éternel, par lequel il devint âme vivante. À la suite du péché, par la mort, la partie matérielle de son être, le corps, retourna à la terre d'où il provenait, et, dit l'Ecclésiaste, l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, verset 7. Dans ce passage, il s'agit de l'Esprit de tout homme. Retourner à Dieu ne veut pas dire être dans la félicité éternelle, mais simplement retourner à son origine, sans préjudice des conséquences de ce qui s'est passé sur la terre. Ainsi, pour Dieu, tous les esprits qui ont quitté leur corps vivent. La mort ne s'applique qu'au corps, et cela pour un temps. Au moment voulu de Dieu, les esprits de tous rejoindront leur corps, les uns en résurrection de vie, les autres en résurrection de jugement. Jean 5, verset 29. Ceux-ci pour demeurer éternellement sous les conséquences de leurs péchés, ceux-là pour être éternellement sous les conséquences glorieuses de l'œuvre de Christ, à laquelle ils auront cru.
Jean 5, verset 29. Et ils sortiront ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement.
Après avoir entendu la réponse de Jésus aux Sadducéens, quelques-uns des scribes, la classe religieuse opposée aux Sadducéens, dirent à Jésus « Maître, tu as bien dit », et ils n'osèrent plus l'interroger. Question touchant le fils de David, versets 41 à 47.
Lecture de la parole. Et il leur dit, comment dit-on que le Christ est fils de David? Et David lui-même dit dans le livre des psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour marchepied de tes pieds. David donc l'appelle Seigneur, et comment est-il son fils? Et comme tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples, « Soyez en garde contre les scribes qui se plaisent à se promener en longue robe et qui aiment les salutations dans les places publiques et les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas, qui dévorent les maisons des veuves et pour prétexte font de longues prières. Ceux-ci recevront une sentence plus sévère. »
Lecture de l'étude. Jésus adresse à ceux qui l'entouraient une question embarrassante à laquelle nul ne paraît avoir répondu. Il leur dit, « Comment dit-on que le Christ est fils de David ? » Et David lui-même dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour marchepied de tes pieds. » Psaume 110, verset 1. David donc l'appelle Seigneur. Et comment est-il son fils? Versets 41 à 44. La réponse à cette question impliquait toute l'histoire merveilleuse de l'abaissement, du rejet, de la mort de Christ et de ses conséquences en gloire. Selon la chair, Jésus était fils de David. Mais venu ici-bas, il n'est pas monté sur le trône de David. Au contraire, au lieu de l'acclamer roi, les hommes le méprisèrent, l'humilièrent et le mirent à mort. Lui-même s'abaissa, accepta, sans ouvrir la bouche, toutes les humiliations que lui infligèrent ses créatures, obéissant à Dieu jusqu'à la mort de la croix. Mais de la mort où il descendit, Dieu l'éleva, le fit asseoir sur son trône et lui donna un nom au-dessus de tout nom, en attendant qu'il fasse valoir son autorité sur la terre. Le psaume cité présente Jésus dans sa position actuelle, attendant le moment de prendre en main sa grande puissance, alors que ses ennemis seront mis pour marchepied de ses pieds. Selon la chair, Jésus est bien fils de David, puisqu'il naquit des descendants de ce roi, ainsi que l'établissent les généalogies de Matthieu et de Luc. Mais en vertu de la position que Dieu lui a donnée, comme fils de l'homme, et en conséquence de son abaissement et de toute son œuvre, il est le Seigneur de David, car il a été élevé dans la gloire. Cette question mettait en évidence la culpabilité des Juifs. Elle impliquait aussi leur inimitié contre lui, puisqu'il l'avait rejeté, et leur jugement comme tel au moment de l'établissement de son règne. Les versets 45 à 47 constitue une sorte de résumé du chapitre 23 de Matthieu, dans lequel le Seigneur prononce les sept malheurs sur les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi, et enseigne aux disciples la marche à suivre au milieu du peuple juif que Dieu supportait encore. Ici, il met simplement en garde contre l'hypocrisie des scribes qui recherchaient les honneurs et leur propre satisfaction, même au détriment des veuves, sous prétexte de s'intéresser à leur épreuve en faisant de longues prières. Aussi, dit Jésus, ils recevront une sentence plus sévère. Une conduite pareille présente un contraste absolu avec celle de Jésus au milieu des hommes, conduite qui doit être celle de tout croyant. La vie du Seigneur se caractérisa par l'humilité, le renoncement, le dévouement, la recherche constante de la gloire de Dieu et du bien d'autrui selon la pensée de Dieu. En un mot, ce fut une vie d'obéissance entière. Si nous sommes mis en garde contre l'esprit pharisaïque, c'est afin que nous imitions Jésus en toutes choses, ce qui est possible si nous le possédons comme notre vie, ayant été, dit Pierre, sanctifié pour l'obéissance de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, verset 2.
Élu selon la préconnaissance de Dieu le Père en sainteté de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées.
C'est-à-dire pour obéir comme il a obéi. En contraste avec la recherche de la gloire qui vient des hommes, ce qui préoccupait à un haut degré les chefs religieux des Juifs, Jésus dit, en Jean 5, verset 41, « Je ne reçois pas de gloire des hommes ». Et au verset 44, il montre que ce qui empêche de croire, c'est le fait de recevoir la gloire qui vient de l'homme, parce que dans cet esprit-là, Dieu n'a pas sa place.
Jean 5, verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire l'un de l'autre, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul?
Il ne peut l'avoir dès le moment que l'homme ne recherche pas ce qui est dû à Dieu seul. Puissions-nous tous nous exercer chaque jour et en toutes choses à être les imitateurs de l'homme débonnaire et humble de cœur, qui fut l'homme parfait parce qu'il obéit toujours à son Dieu et Père. Il entra dans ce monde en disant « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Et en la faisant, il a pu dire « Je fais toujours les choses qui lui plaisent ».